Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'agriculture au miroir de l'écologie. Le salon de la Porte de Versailles a ouvert ses portes ce week-end et a montré que l'attention entre enjeux économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux est plus sensible que jamais. Pour s'en rendre compte, le dernier numéro de la revue Esprit propose de décortiquer les mondes de l'écologie. Notre invitée à 12h55 sera Lucille Schmitt qui a co-dirigé ce numéro. Mais avant cela, rencontre avec l'enfant terrible de l'art contemporain en France, celui par qui le scandale arrive. Depuis l'exposition d'une étoile en résine de cannabis jusqu'à la vidéo d'animaux s'entretuant, représentation de la violence, interrogation sur nos hypocrisies, c'est peut-être ça qui dérange et fait parfois écran et empêche de percevoir la force d'une œuvre qui révèle un lien oublié, celui qui rapproche action et image sans jamais prendre parti. Adèle Abdessemed est l'invitée de La Grande Table, à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr.
La Grande Table, Raphaël Bourgois.
Bonjour Adèle Abdessemed.
Bonjour.
Enfant terrible, vous êtes évidemment plus un enfant. Cette étiquette, elle vous colle pourtant à la peau, elle vous convient, elle vous agace?
C'est les autres qui sont terribles, c'est pas moi.
Vous vous sentez pas terrible dans l'approche que vous avez de l'art contemporain, les œuvres dont j'en citais quelques-unes, mais il y en a bien d'autres qui ont pu faire scandale en France ou ailleurs d'ailleurs, là où vous exposez. C'est quelque chose que vous recherchez, c'est quelque chose qui arrive malgré vous?
Non, je pense que ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le mot « liberté ». Et je pense la liberté, c'est celui qui sont libres de penser autrement. Et je crois le cœur, en tous les cas, de mon œuvre, et il est là, il réside ici.
Voilà. On pourrait penser que c'est le cœur de toute œuvre d'artiste contemporain, justement, penser autrement, décaler le regard, apporter, comment dire, une forme nouvelle à ce sur quoi on n'arrive pas forcément à mettre des mots. En quoi vous avez le sentiment, vous, Adèle Abdessemed, d'apporter ce regard décalé, peut-être plus que d'autres, pour qu'on en arrive justement à ce que je décrivais comme une forme de scandale?
Parce que c'est plus fort que moi. Je pense une œuvre d'art, effectivement, elle n'est pas faite pour renverser soit ni un État, ni un gouvernement. Mais elle est faite... Je crois pour transformer, nous transformer notre regard. Je crois que c'est comme ça, comme on a toujours, je crois, depuis l'origine de l'homme et de toutes les civilisations, notre regard, je crois.
Transformer le regard plus que transformer le monde?
Le regard, c'est le monde. Hein, il suffit juste de le regarder, même si c'est... C'est le monde, il peut être aussi une petite idée, tout simplement.
Alors, un petit point de biographie tout de même, Adèle Abdessemed, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes algérien d'origine, vous avez étudié aux Beaux-Arts d'Alger, une école que vous avez quittée en 1994, en pleine année de plomb, évidemment, lorsque le directeur de l'école, ainsi que son fils, ont été assassinés au sein même des murs de l'école des Beaux-Arts. Vous arrivez en France et vous intégrez les Beaux-Arts de Lyon. C'est là que vous avez fait vos armes, en quelque sorte, dans le monde de l'art contemporain. C'est là aussi que vous rencontrez votre femme, Julie, on en reparlera, puisque c'est au centre d'une des deux expositions dont nous allons parler aujourd'hui, et vous intégrez progressivement ce monde, ce marché de l'art contemporain. Une première exposition monographique vous est consacrée à Berne, en Suisse, et puis en 2012, c'est un peu la consécration au centre Pompidou à Paris. Vous êtes aussi présent dans des collections prestigieuses, comme celle de Pinault, évidemment. Est-ce que ces deux expositions dont nous allons parler, et qui finalement recoupe les deux éléments de votre œuvre, à la fois un élément très autobiographique et une façon de rebondir sur l'actualité sans jamais la commenter, Adèle Abdessemed. Donc, cette œuvre qui est la vôtre, vous la décririez comment? D'abord comme autobiographique?
Je pense que l'œuvre d'art, en tous les cas, on va pas décider de « Allez, demain, je vais faire une œuvre d'art ». Donc, on s'égare immédiatement. Donc, effectivement, il y a des bombardements, il y a l'inévitable intime, comme je le dis souvent. Mais je pense que chez moi, il y a quelque chose qui, il y a un tourbillon qui me tourmente, et donc je réalise tel ou tel acte, telle œuvre, telle image, tel dessin, tel, peu importe le médium et le support. C'est au fond, voilà, pour accoucher cette chose. Et en général, je l'oublie. Et même parfois, je me demande est-ce vraiment de moi? Parce que il y a un mot peut-être assez cruel de le dire, mais presque pour m'en débarrasser. Parce que si elles reviennent, cette idée, si elles reviennent, donc c'est des images en vérité qui me hantent. En vérité, donc
et
qui
nous
hante aussi, qui nous hante aussi, parce que
collectivement,
qui nous hante, exactement.
Et justement, vous arrivez à vous en débarrasser, c'est-à-dire que quand vous regardez a posteriori une œuvre que vous avez pu réaliser, il vous arrive d'oublier pourquoi vous avez réalisé cette œuvre-là.
Ça m'arrive régulièrement, en vérité. C'est même, je me demande, est-ce de moi? Voilà, c'est comme
Hélène
ça.
Cixous, avec qui vous avez coécrit un livre il y a quelques temps et qui vous consacre là un livre qui vient de sortir, Les 100 arches d'Adèle Abdessemed, parlez de vous récemment et voici ce qu'elle disait.
Adèle est un artiste algérien, très jeune, extrêmement doué. Et d'abord, c'est un garçon qui est libre, c'est-à-dire que il a jailli hors de cette Algérie qui, évidemment, ne peut pas accepter l'art, la représentation, tout en y gardant la part la plus importante pour lui, c'est-à-dire sa mère, qui fait terre et Algérie pour lui. Et il est d'une violence extrême, et cette violence, il arrive à en faire des figures. À la fois, c'est souvent très politique, parfois c'est simplement de l'ordre de la fougue, de la passion, de l'explosion. Et quand je l'ai rencontré, j'avais déjà écrit Aïe et Aïe Aïe. Et quand il l'a lu, et il s'y est trouvé lui-même. Et ça, je le comprends. Après coup, je me suis dit, il a raison, il est là-dedans, avec sa façon de faire avec le feu et la cendre, et avec la matière, il a un rapport à la matière très fort, des œuvres qui sont d'une force presque brutale, admirable.
La violence, le feu et la cendre, ça rappelle, parlons-en un petit peu de ces deux expositions, Adèle Abdessemed, la première, Ochi Chorni, qui doit commencer à la fin de la semaine, le 4 mars, au MAC, le Grand Ornu, en Belgique, à côté de Mons. Et il y aura également une autre exposition au MAC de Lyon, qui commence un peu plus tard. Donc deux expositions à venir, où on retrouve ces motifs, finalement, de la violence, de la cendre, qui sont très présentes chez vous.
Oui, je pense, comme elle le dit, Hélène, d'une façon admirable et c'est forte. Donc, je pense que cette violence, en fait, moi, je la contourne. Hein, c'est comme Orphée, quand il jouait la harpe, donc les rivières retournent vers lui et les pierres se lèvent pour danser dans le ciel, et etc., etc. Donc moi, toutes ces choses, je les contourne évidemment. C'est je dirais comme un poète. Donc c'est pas de l'agressivité. Donc c'est de la violence. Et je connais pas quelque chose qui n'est pas violent. Vraiment. Une rencontre, deux cratères qui se rencontrent s'explosent, serrer la main, c'est très violent, se réveiller ou se coucher, donc c'est très violent tout ça. Il y a une chanson de M. Kalthoum qui dit Nuit, ne me laisse pas seul, nuit, ne me laisse pas seul. Donc c'est très violent tout ça. Donc, au Chichonia, c'est l'exposition qui s'ouvre ce vendredi, donc en Belgique, au Grand Ornu. Une exposition, quand j'ai visité le lieu, j'ai très vite vu, il y a quelque chose de palace, d'une salle vers une autre. Contrairement à Lyon, quand je connais le MAC, le musée, parce que c'était la ville de mon accueil, la ville vraiment qui m'a tout donné. Et donc, je connaissais ce lieu, et en le revisitant, je reprends l'expression de Thierry Raspail, le directeur, justement, où il disait que c'est comme un sandwich, millefeuille, comme ça. Donc, il y a plusieurs étages. Donc, donc ces deux invitations sont venues presque au même moment, je dirais. Et donc, le Grand Ornu, je l'ai vu comme un palace, en vérité. Il y a un palace, c'est comme dans tous les palaces présidentiels comme ça, on voit le gouverneur, le président, quand il traverse, c'est comme ça, il y a toujours un tapis rouge, il traverse des salles et on voit des œuvres à la fois kitsch et à la fois historiques, comme des scènes de chasse, etc., et de figures historiques. Et puis, toujours, il y a une horloge quelque part. Et effectivement, il y a une horloge au Grand Ornu. Et donc, j'ai conçu cette exposition dans cet esprit. Ou un tapis où il y aura pas de... qui attend personne, d'ailleurs, hein, ce tapis rouge. Ochichonia, c'est la chanson « Les yeux noirs ». Qui était dans le programme du Chœur de l'Armée Rouge, une chanson essentielle, hein, très considérée, et donc ils sont morts en 2016.
En revenant en effet d'être allé voir les troupes russes, d'être allé voir les troupes russes en Syrie, et vous en avez fait une série de sculptures calcinées de ces hommes des Chœurs de l'Armée Rouge.
Exactement.
Je vous propose de les écouter.
Видел вас я не в добрый час, очи черные, жгуче пламенные, и манят они в страны дальние. Где цари любовь, где цари покой, где страдания нет, где вражеды.
Ochi Chornie, donc le cœur de l'armée rouge. On connaît tous cette chanson, en effet, on ne connaissait pas forcément les titres, Les yeux noirs, Adèle Abdessemet, qui donne le titre aussi de l'une de vos expositions, celle qui doit commencer le 4 mars au Max en Belgique. Vous l'avez dit, deux expositions, il y en a une autre à Lyon, deux expositions indépendantes, mais qui se complètent. Et est-ce que vous diriez que l'exposition du Grand Ornu, puisqu'on a commencé par celle-ci, c'est une forme d'exposition manifeste, manifeste contre quoi? Je ne sais pas, contre peut-être la barbarie, pour la liberté, avec beaucoup d'œuvres spécifiquement créées pour ce lieu, qui est aussi, il faut le dire, une friche industrielle, un ancien lieu de production et de production de charbon, notamment le charbon qui entre et dans la composition de vos œuvres. Donc la boucle est bouclée en quelque sorte.
Vous savez, parfois quand je dessine, je suis comme un soufi, donc je marche sur le charbon. Quand je trace des lignes, exactement. Donc cette noirceur, je l'ai épousée dès l'origine, dès le début. Et les yeux noirs, oui, ces lieux pour extraire justement du charbon, hein, donc c'est des mines, etc. Donc c'est aller vers la profondeur, vers le fond, vers cette noirceur qui est au fin fond, oui. Je suis un artiste, oui, je dirais des profondeurs, oui.
Et dans ces profondeurs, vous êtes allé chercher ces 27 effigies en bois calciné qui représentent le cœur de l'armée rouge. Vous l'avez dit, ces hommes qui sont morts en revenant de Syrie au Noël 2016. Qu'est-ce qui vous a attiré finalement dans cette histoire? Qu'est-ce qui vous a frappé? Vous disiez tout à l'heure, il y a des choses qui me frappent et j'ai besoin de les exorciser et ensuite je les oublie. Pourquoi là, il fallait absolument en faire une œuvre?
Faire une œuvre, c'est toujours de l'arracher de la mort, n'est-ce pas?
C'est votre réponse.
Je crois.
Il y a aussi dans cette exposition, et c'est ce qui fait la comment dire, qui donne l'affiche de l'exposition, c'est un pigeon qui porte la dynamite sur le dos, pigeon évidemment animal emblématique de l'espace public, surtout dans les grandes villes. Il est posé là sur un banc public, je crois qu'il ouvre l'exposition. Il y a dans cette œuvre, on peut voir une forme à la fois d'absurdité et en même temps d'absurdité qui renvoie à notre contemporain aujourd'hui, à notre vie, à tous, dans les grandes villes où que nous soyons.
Oui, je l'ai appelé Bristo. J'ai commencé pigeon au départ, mais quand j'ai fait une commande publique à Peckham, donc à Londres, donc à ce moment-là, j'ai pensé très vite à Frank Dickens, qui était une figure emblématique dans la bande dessinée anglaise. J'ai découvert ça par Umberto Eco, qui l'avait découvert. Et donc, Frank Dickens a créé ce personnage qui s'appelait Bristo. Et Bristo, c'est extraordinaire, c'est une sorte d'un Kafka, mais un Kafka qui a fait faillite. Donc, à l'heure de la pause, de déjeuner, au lieu de manger, partager son sandwich avec ses collègues, donc il le partage justement seul dans ce tabouret. Et celui qui est venu lui parler, avec qui il changeait, c'était Bristo, c'était le pigeon. Pareil, quand il est à son office, donc au bureau, pareil, à la fenêtre, donc ce pigeon venait toujours parler avec lui. Donc ça parle de la solitude, de l'individualité, quand je nommais Kafka, où il disait, voilà, le monde, c'est ça s'arrête, donc limite de mes orteils, donc... voilà, Bristo, c'est un multi en vérité, multi dans notre société. Et c'est vrai que les pigeons, ils ont toujours un sens qu'on retrouve dans les parkings, ce qu'on appelle Marc Auger, le non-lieu. Donc les parkings, les autoroutes, les places publiques, les parkings, voilà. Donc et c'est plus un pigeon de la paix innocent, voilà, il porte un blackberry et porte aussi de la dynamite, contrairement aux animaux de la guerre, donc qui sont évidemment qui sont mes frères lointains, mes frères proches. Je peux pas concevoir une exposition aujourd'hui, sans penser à mes frères, les animaux. Je ne peux pas concevoir une exposition.
Je parlais tout à l'heure d'une forme de violence et peut-être aussi une façon de faire scandale. En tout cas, il y a dans votre œuvre, Adèle Abdessemed, la volonté peut-être de réactiver la violence des images, celle qu'on ne voit presque plus. On est inondé, évidemment, c'est un lieu commun de le dire. On est inondé d'images à tel point qu'on ne les voit presque plus. On peut penser en ce moment, par exemple, à ce qui se passe en Syrie, dans l'enclave de la Ghouta, où voilà, on a tous les jours ces images de civils bombardés, sortis des décombres, des enfants. On a l'impression qu'on va de plus en plus loin dans la violence des images qui sont montrées. Et il y a dans votre travail une volonté, ce rapport très particulier finalement à l'image d'actualité, et une volonté peut-être de recréer le choc qu'on n'a plus en les voyant.
En fait, une phrase de Godard, il disait une image simple, ça ne veut pas dire une simple image. Et donc moi, il n'y a pas... Mais c'est très simple, en fait. C'est ça, peut-être, ce qui dérange. Il n'y a pas de narration dedans. Je raconte pas, je fais, en fait. Et donc, ça dérange énormément. Quand je fais de la vidéo, il n'y a pas ce titre, il n'y a pas de titre pratiquement qu'on voit. Il n'y a pas. C'est l'image qui est, je dirais pas brute, mais qui sort presque direct de... Voilà, donc il n'y a pas l'effet chez moi. Et c'est ça probablement qui dérange, contrairement à la fabrique des images, aux usines des images. Voilà, je sais. C'est. Peut-être c'est ça.
Lors d'une émission récente de la Grande Table, Olivia Gesbert était à la Fondation Louis Vuitton. Elle recevait notamment la directrice artistique de la collection et qui s'est lancée, on va dire, dans une forme de définition du rapport entre l'art et le langage. Et je voulais vous la soumettre cette idée et voir ce que vous en pensez.
Je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin d'un discours. Je l'ai dit et je le répète, je le pense fondamentalement, sans les mots pour voir les choses, donc c'est notre rôle pédagogique élémentaire, on n'a pas accès aux œuvres. Ceci dit, je pense qu'il faut avoir accès au langage propre de l'art, qui pour moi ne relève pas totalement, en tous les cas n'est pas circonscrit par l'écrit, au contraire il le déborde. Et c'est un langage, encore une fois, qui est sensible. C'est pas évident, parce qu'on n'a probablement pas les mots pour le dire. D'ailleurs, quand une œuvre arrive, je suis désolée, je crois que elle nous déborde, elle casse toutes les règles, et on n'a pas, si le discours est déjà là, c'est que l'œuvre n'a pas casser ce qui existait. Je pense qu'une œuvre digne de ce nom et qui perdure, c'est une œuvre qui a cassé toutes les règles, y compris les règles du langage.
Voilà, Suzanne Paget, donc au micro d'Olivia Gesbert, Adèle Abdessemed, une œuvre qui perdure, c'est une œuvre qui a cassé le langage, vous êtes d'accord avec ça?
Ah oui, moi j'adore Suzanne et ce qu'elle dit c'est très pertinent, très, très fort. Moi je l'ai déjà même écrit, que je ne parle pas, je n'écris pas, je crie. Donc voilà, je suis un artiste de cri. Je pense que le langage, ce n'est que la sémiologie de langage, c'est tout. Pour moi, en tout cas, de mon cas, j'ai jamais vu un artiste qui peut parler du sentiment de la jalousie ou du sentiment de la haine. Il faut Shakespeare à ce moment-là, avec ses sorcières. Mais je crois l'œuvre d'art, c'est totalement autre chose. Oui.
On a peu évoqué l'autre exposition, celle de Lyon, qui doit commencer un peu plus tard, le 9 mars, je crois, Adèle Abdessemed. C'est une exposition que vous avez intitulée L'Antidote. Alors L'Antidote, c'est le nom d'un bar, celui auquel vous vous rendiez quand vous étiez étudiant à Lyon. Mais on pourrait faire une autre lecture de ce titre, une lecture presque littérale. Et vous allez me dire si justement c'est quelque chose qui vous convient. On pourrait se dire, est-ce que ça veut dire que pour vous, l'art est un antidote?
Moi, je dirais, c'est plutôt l'art, c'est une porte de sortie. Qu'un antidote, on n'a pas besoin ni de divan, ni expérimenter sur nous-mêmes, comme la naissance de la pharmacie homéopathique. Je crois l'art, plutôt, c'est une porte de sortie, mais qu'il faut la réinventer tous les jours. Donc il faut la réinventer, cette porte de sortie. Il faut la, tout simplement. L'antidote, moi aussi, je lui ai parlé au premier degré. C'était un soir. J'ai jamais été à cet endroit. Je connaissais pas parce que j'habitais à l'époque, je crois, à Vénissieux ou bien à Vonvelin. J'ai fini mon travail au Nouveau Musée à l'époque pour une exposition de groupe. Il y avait un des collègues qui habitait juste au-dessus, qui m'a invité chez lui, finalement, dormir chez lui. Et donc, il m'a fait descendre, qui était anglais. Il m'a dit, viens, on va boire une bière dans un pub anglais. Tu connais pas Guinness? Je lui ai dit, non, je connais pas. Donc, voilà, je suis descendu. Et donc, j'ai pris une Guinness. Et à ma belle surprise, voilà, la lumière est arrivée. C'est comme l'allégorie de la caverne de Platon et donc voilà je suis sorti de cette grotte en voyant ma future épouse Julie et j'ai jamais retourné après je crois que je suis allé une seule fois où montrer ce lieu à mes filles tout simplement et je peux vous donner les dates. Je peux vous dire où et jamais vous dire la suite.
Voilà. On vous le demande pas, Adèle Abdessemed. Et donc, dans cette exposition Antidote au MAC de Lyon, vous avez recréé cet espace, ce bar, dont vous faites léviter par une grande soufflerie, un système avec une soufflerie, vous faites léviter les meubles du bar. Il y a aussi d'autres installations monumentales, on l'a pas dit, mais vous êtes attaché peut-être à cette forme monumentale. On se souvient de ce grand squelette intitulé Habibi que vous aviez installé notamment au Palais de Tokyo, mais que vous avez présenté à plusieurs endroits. Et là, ça prend la forme notamment d'une œuvre, une sorte de bas-relief qui s'appelle Shams, qui est un bas-relief en terre crue, et qui représente finalement des scènes de travail forcé. Ça peut aussi évoquer la guerre. Je voudrais qu'on termine sur ce bas-relief, parce que véritablement, Kamel Daoud, qui signe un texte dans le catalogue, qui est un écrivain algérien, dit de Shams que ça nous montre que l'enfer est sur terre. Et je voulais savoir, on va terminer sur une note peut-être pas très positive, mais voilà, s'il y a cette opposition aussi dans votre travail et en vous, entre cet enfer que vous mettez dans vos œuvres et peut-être un paradis qui serait celui, je sais pas, d'un bar comme comme celui de l'Antidote.
Au fait, je l'ai conçu en deux étages, c'est vrai. J'ai pas pu faire quelque chose de dingue. C'est d'ouvrir un trou pour communiquer entre les deux étages. Mais hélas, pour des problèmes techniques de sécurité, etc., on n'a pas pu le faire, Thierry et moi. En fait,
c'est Thierry Raspail, le directeur.
Thierry Raspail, bien sûr. Donc le haut, c'est, je l'ai conseillé comme la condition humaine, l'exploitation, la sueur, la fatigue, le travail, etc. Et le deuxième, c'est comme dans une ville invisible où le merveilleux arrive. Donc peut-être j'ai répondu à votre question.
Ouais. Peut-être, en tout cas nos auditeurs pourront se rendre à Lyon à partir du 9 mars. L'Antidote, c'est donc au Musée d'Art Contemporain de Lyon. Et pour ceux qui sont plus au nord, en Belgique, près de Mons, il y a au MAC Oči Čorni, et qui est donc votre autre exposition du moment, en tout cas qui commence à la fin de semaine, Adèle Abdessemed. Merci de vous être arrêté au micro de la Grande Table sur France Culture. Merci beaucoup. Merci.